Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Je parlais de vaccination. Ah, c'était les jeunes hier, c'était le début de la vaccination des jeunes qui ont répondu à l'appel en grand nombre. Par ailleurs, au sud du centre-sud de Montréal, les 500 doses prévues sans rendez-vous ont été écoulées. 9h ce matin, il n'y en avait plus. Et on a finalement su, là, c'était qui la fameuse, le fameux invité, la fameuse star mystère qui était pour être attendue dans un centre de vaccination à Montréal. C'était Émile Bilodeau, la mascotte. C'est ce qu'on a su. Auteur, compositeur, interprète qui est venu égayer les troupes pendant qu'on se faisait vacciner. Émile Bilodeau qui est connu pour ses positions nationalistes. Un hasard, je ne sais pas. En tout cas, ça tombait bien pour cette journée où on nous annonce une réforme de la loi 101, hein, parce que 40 ans après son adoption en 77, la Charte de la langue française est révisée en profondeur. Elle fait surfer une petite jeunesse, c'est ce que j'ai envie de dire. Ministre Simon-Jolin Barrette, qui pilote ce dossier-là, a déposé tout ça ce matin. Je suis avec Alexandre Moranville-Ouellette pour en parler. Alex, salut.
Salut Geneviève.
Bon, t'es mon expert parce que je me disais, OK, tu sais, je pourrais résumer c'est quoi les points forts de la réforme pour nos auditeurs. Il y en a quand même un certain nombre. Mais toi, c'est un sujet qui te passionne et qui vient te chercher la loi 101. Puis tu sais, tantôt, je discutais avec Benoît puis je me disais, OK, tu sais, quand on est jeune, puis tu sais, je m'inclus dans les jeunes en ce sens où moi j'ai grandi. C'était un peu le combat de mes parents là.
Oui, oui, t'étais l'entre-génération.
Ben,
j'espère que t'es l'entre-génération, puis j'espère qu'il va y avoir une nouvelle ferveur, un nouveau combat là-dessus pour ma génération.
Oui, on va y revenir parce que j'ai l'impression qu'on se sent pas tellement interpellé. En tout cas, les gens de mon âge, notamment là, entre 30 et 40 ans, par rapport à la langue française, j'expliquais tantôt à Benoît que j'avais peut-être un peu changé mon fusil d'épaule parce que je le constate au quotidien qu'on est un peu dans un recul par rapport à la place du français, notamment dans l'espace public à Montréal. Mais je disais, tu sais, comme fille des régions, quand j'étais tout petite, c'est l'anglais, c'était pas ben une menace, Alex, pour être honnête.
Je peux comprendre, mais c'est certain. Maintenant, en plus, on a, tu sais, études à l'appui, on le constate, oui, oui. Là, ce recul du français, il est réel, il est reconnu par toutes les institutions politiques.
Ben, même le gouvernement libéral l'a reconnu, là.
Il y en a un, donc, après ça, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, la réponse, c'est le projet de loi 96. En ce moment, projet de loi de 100 pages qui vient modifier la Charte de la langue française de 1977, donc 44 ans plus tard, mm-hmm. On réouvre ça. C'est sûr qu'il y a des grosses mesures. Celle peut-être qui va commencer là à faire déjà le plus de bruit, c'est le fait que le Québec compte inscrire dans la loi constitutionnelle de 1867, pardon. Mm-hmm. Ça, c'est la Constitution canadienne, oui, pour qu'on soit certain. Reconnaître la nation québécoise ainsi que le français comme seule langue officielle et commune du Québec. Déjà là, ça va commencer à faire grincer des dents les constitutionnalistes parce que le Québec n'a pas expliqué du tout comment on allait s'y prendre déjà pour faire ça de manière unilatérale, mais c'est sûr qu'il va y avoir un combat là avec Ottawa de ce côté-là.
Pourquoi?
C'est sûr
qu'il va y avoir des tensions. Pensais qu'il avait reconnu notre unicité et notre
Mais oui, mais là ça vient comme l'affirmer Québec comme nation encore une fois là-dedans. C'est plus officiel, ça fait plus de bruit, puis ça se tient plus pour le Québec, évidemment, comme place unique, distincte dans le Canada, avec le français comme seule langue unique. Ouais. Disons que ça va brasser. Risque de brasser avec Ottawa.
Une des affaires qui, en tout cas, moi, m'interpelle dans ce qui a été annoncé tantôt, puis on reviendra sur ces mesures tout de suite après, Alex, c'est le fait qu'on va utiliser la clause dérogatoire, un peu comme on le fait avec la loi 21. Mm-hmm. Le premier ministre Legault qui a manifesté sa volonté d'écrire au premier ministre des provinces à ce sujet-là pour leur expliquer le pourquoi du comment.
Oui, exactement. Il va écrire une missive, donc, et au fédéral et aux autres paliers de gouvernements provinciaux, aux autres premiers ministres. Parce que c'est comme un peu, c'est considéré dans le reste du Canada comme l'option nucléaire, hein, la fameuse clause dérogatoire, la clause 33, ouais, de la Charte des droits et libertés canadiennes. C'est parce que habituellement c'est l'option nucléaire, ça permet d'outrepasser certaines mesures donc de la Charte canadienne des droits et libertés, mais disons qu'il y a un historique spécial, hein, entre l'article 33 et le Québec, plus précisément beaucoup plus que toutes les autres provinces. La plupart l'ont jamais utilisé, le fédéral n'a jamais utilisé lui-même la clause dérogatoire parce que on se souviendra, je vais pas faire l'historique complet, 1981, la nuit des longs couteaux, le rapatriement de la Constitution sans l'accord du Québec.
C'est bien de le faire l'historique, Alex, parce que tu sais, c'est loin parfois les cours d'histoire, puis c'est des trucs qu'on prend pour acquis. qui et auquel on n'aime pas trop penser, mais ça a eu lieu, tu sais.
Ouais, puis bon, puis c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qui s'est passé là rapidement quand on a tenté de rapatrier la Constitution au Canada, si je peux le résumer le plus simplement possible, assemblée de toutes les provinces et du fédéral, on veut évidemment renégocier comment on va rapatrier la Constitution ici au Québec, au Canada, le Québec souhaite demander qu'il y ait un veto qui puisse être utilisé pour les provinces pour tous les changements constitutionnels à venir. Et on a peur du côté du Québec que si une opposition majoritaire de l'autre côté du reste du Canada, on puisse supprimer les droits linguistiques du Québec, ce qui aurait été le cas théoriquement à ce moment-là. Le Canada puis le reste des provinces, eux, préfèrent faire la clause dérogatoire là-dessus. Ça s'entend pas et c'est là qu'il y a eu ce qu'on a appelé la fameuse nuit des longs couteaux, alors que René Lévesque, premier ministre du Québec, n'était pas là. On s'est entendu sur un coin de table, dans la cuisine même, dit-on, d'un autre côté, et sans l'accord du Québec du tout, on a rapatrié la Constitution. Et donc, le Québec, théoriquement, n'a jamais signé la Constitution de 1982. Ce qui est comme l'espèce de dossier qui est toujours balayé en dessous du tapis, si on veut. Puis il n'y a même pas un gouvernement québécois, là, depuis, qui soit fédéraliste ou indépendantiste, qui a souhaité signer tout ça. Donc, c'est une espèce de zone grise. On n'est jamais convaincu. Puis même, fait intéressant, entre 1982 et 1985, tous les projets de loi qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale du Québec pour protester ont utilisé la clause dérogatoire, sans que ça soit nécessaire. Il n'y avait pas besoin de l'utiliser, mais ils l'ont utilisé pour tout, puis ont même changé tous les autres projets qu'il y avait eu avant pour de manière symbolique en utilisant la clause dérogatoire. Donc, c'est une manière de protester à ce moment-là. Aujourd'hui, on l'utilise pour contourner certains articles de la Charte canadienne des droits et libertés.
Bon, et ce sera le cas, visiblement, pour la réforme de la loi 101 s'il y a des chicanes constitutionnelles. Là, c'est quoi, majoritairement, qui a été annoncé aujourd'hui? Les trucs les plus parlants, là, il y a la question des cégeps, évidemment.
Oui, il y a la question des cégeps, entre autres. Là, on a plafonné les étudiants francophones et allophones dans les cégeps anglophones. Ça ne pourra pas excéder 17,5% des effectifs d'étudiants admis. Bon, c'est sûr, c'est une mesure qui est mise de l'avant. Du côté des oppositions, déjà, là, les péquistes ont réagi en disant que c'est peut-être pas assez, ça cloisonne, ça contingente, ça fait de l'anglais peut-être au cégep, même quelque chose qui va être plus attrayant symboliquement, tu sais, si on veut, tout ce qui est contingenté.
Oui, parce que c'est comme si c'était un privilège d'y accéder.
Exact.
Fait que, en ce sens-là, je suis assez d'accord avec les oppositions, mais ma réflexion était la suivante sur les cégeps, puis je suis curieuse de savoir ce que t'en penses, Alex. Je pense que rendu au cégep, là, dans l'existence, là, ta position par rapport au français, déjà assez bien établi. Et je ne sais pas dans quelle mesure les étudiants qui choisissent de faire leur corpus en anglais vont poursuivre par la suite. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites là qui ont sous-tendu là, que les étudiants qui étudiaient en anglais avaient tendance à le faire au cycle supérieur dans les universités. Mais j'ai l'impression que c'est à ce niveau-là, le destin est déjà scellé, rendu là.
Peut-être. Honnêtement, je ne saurais dire. Moi, si je prends mon exemple personnel, moi, je pense que ma position a beaucoup évolué, même depuis le cégep, sur tout ça. Il y a encore le temps de se faire une tête. Il n'est jamais trop tard pour changer d'idée.
Tu es étudiant en français?
Oui, absolument, en français pour tout. Puis d'ailleurs, pendant qu'on est dans les études, l'épreuve uniforme de français va être obligatoire à l'ensemble des étudiants des cégeps anglophones aussi, sauf ceux qui ont fait études primaires, secondaires, complètement en anglais.
Ça, c'est une bonne affaire.
En ce qu'on le sait. Après ça, il y a des gens, peu importe la langue de naissance, peu importe la langue des études, qui veulent se réorienter, par exemple, en étant dans les corps professoraux, en enseignement. Puis on l'a vu dans les dernières années, des rapports désastreux sur les épreuves de français, des étudiants qui rentraient donc pour devenir professeurs à leur tour. Il y a quelque chose à faire, donc c'est une mesure qui est intéressante. Si on passe, si tu permets, dans les autres mesures, il y a la création, dans tout ce qui est administratif, d'un ministère de la langue française. Parce qu'en ce moment, Simon Jean-Barrette est le ministre délégué donc à la langue française. Il n'y a pas de ministère à proprement parler. Il va y en avoir un maintenant, donc pour avoir une gouvernance complète, il va y avoir un ou une ministre de la langue française. Également, un poste de commissaire à la langue française qui est créé pour traiter toutes les plaintes puis rendre compte de la situation linguistique du Québec. Donc, quand il va y avoir des plaintes, puis c'est quelque chose d'intéressant, je vais y revenir quand on va parler du travail, mais on peut porter plainte donc au sein de cet organisme-là qui va être chapeauté par le commissaire de la langue française, qui va rendre donc compte de cette situation linguistique-là. D'ailleurs, du même côté, on abolit le Conseil supérieur de la langue française qui était rendu un peu inutile.
Un peu désuet, là, quand même. Mais il y a des annonces quand même importantes concernant la culture en entreprise aussi.
Oui. Culture en entreprise, ça, c'est quelque chose d'assez spécial. Un, on assujettit à la loi 101 les entreprises de 25 à 49 employés maintenant qui vont devoir détenir un certificat de francisation aussi. Même chose, on revient dans le combat également.
Attends, est-ce qu'il va y avoir une police qui va aller surveiller si les employés parlent anglais? Ça me semble un peu impossible à appliquer.
OK. Ce qui est spécial, c'est justement, on a parlé du commissaire à la langue française. Ouais. Puis évidemment, là, c'est un projet de loi de 100 pages. Là, c'est ma lecture à date de tout ça. Mais ce qu'il va pouvoir y avoir maintenant, là, c'est il va être possible d'aller porter justement une plainte lorsque, entre autres, le français, puis tout ce qui est le droit au travail en français est bafoué en entreprise. Par exemple, maintenant, les employeurs vont devoir envoyer, s'il y a une offre de promotion, par exemple, à l'intérieur de l'entreprise, il faut que ça soit en français. Faut que ça soit fait en français pour, évidemment, favoriser tout ça. Les offres d'emploi, même chose, les communications avec les employés doivent être faites en français. Si un patron qui ne respecte pas ça, ben, il va y avoir moyen de porter, justement, une plainte pour qu'il y ait un changement qui soit fait là-dedans.
Parce que c'est vrai qu'on fait très, très facilement la transition vers l'anglais. Là, dès qu'il y a quelqu'un en entreprise, un anglophone, par exemple, qui est plus à l'aise en anglais, tout le monde va transitionner vers l'anglais sans trop se poser de questions. Je sentais qu'un peu, comme tu le disais tantôt, comme tu l'évoquais par rapport à l'anglais dans l'espace public, à un moment donné, c'est pas normal que tu puisses pas faire une vie, c'est-à-dire que si t'es anglophone, que tu puisses pas fonctionner en français dans une ville bilingue, par exemple, comme celle de Montréal, c'est-à-dire que tu puisses évoluer complètement en anglais dans une ville puis pas capable de te débrouiller en français. Même chose en entreprise. C'est clair que, à mon sens, ça devrait pas pouvoir exister.
Ouais. Puis à ça s'ajoute aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi, pour pouvoir demander, exiger la langue anglaise, la maîtrise de l'anglais dans un poste. Lorsqu'on fait une offre d'emploi maintenant, ça va devoir être motivé par l'employeur. S'ils veulent ça, ils doivent en montrer la nécessité. Puis ils doivent évaluer les besoins linguistiques liés à la tâche concernée précise qui demande de l'anglais. Parce que moi, je sais, j'ai grandi, ma mère m'a toujours dit, faut que tu maîtrises l'anglais, sinon tu pourras pas te trouver une bonne job.
Excuse-moi,
et ça, c'est spécial. Là.
C'est tellement vrai.
C'est spécial. Là.
Moi, j'ai souvent passé à côté d'offres d'emploi. En fait, mon premier employeur, chez TVA Publications. Moi, la première place où j'ai travaillé dans ma vie, c'est chez Québécois. C'est très ironique que je revienne ça aujourd'hui. Mais quand j'avais 24 ans, je travaillais au magazine. Et puis, une personne m'avait appelé pour occuper un certain poste, c'était adjointe à la rédaction d'un magazine, OK? Puis je m'étais rendue jusque dans les dernières candidates, j'avais fait une rencontre avec les RH et c'était des magazines francophones, là, je tiens à le préciser, et la préposée aux ressources humaines m'avait demandé si j'étais bilingue et moi j'avais été honnête. Tu sais, je venais du Saguenay, c'est pas longtemps que j'étais arrivée. J'étais nullement bilingue, puis encore aujourd'hui, je me qualifie pas d'une personne bilingue. Je me débrouille en anglais, je peux soutenir une conversation en anglais. Je pourrais, dans une certaine mesure, pas animer en anglais, pas du tout, mais travailler en anglais dans un bureau, ça se pourrait, tu comprends? Et je n'ai pas eu la job, parce que j'étais pas parfaitement bilingue, alors que mon emploi ne nécessitait aucunement une maîtrise de l'anglais. Et c'est comme ça, des exemples, j'en ai un char puis une barge, et il y en a beaucoup autour de toi. C'est vrai qu'on a grandi avec cette mentalité-là, que si t'es pas bilingue, tu travailleras pas. Alors que des fois, ça n'a aucun rapport.
Mais c'est une pensée. C'est fou de voir penser comme ça. Puis même moi, évidemment, je suis rendu presque parfait bilingue par la force des choses.
Mais toi, t'as-tu rendu à Montréal?
Non, j'ai rendu à Rive-Sud.
OK.
Ouais, c'est ça, mais je comprends.
Pas même affaire que grandir à Canton-Tremblay.
Mais oui, puis il y a tellement d'emplois. On n'est pas en train de dire que l'anglais, c'est pas nécessaire pour certains emplois. S'il faut que tu travailles, t'as des conversations internationales avec des clients. Faut que tu parles anglais, c'est normal. Mais maintenant, va falloir le motiver en entreprise. Ouais. Évidemment, là, ça va être de voir si le nouveau poste de commissaire, donc à la langue française, va pouvoir faire respecter ça de manière en bonne et due forme. Mm-hmm. Mais c'est sûr que c'est intéressant comme mesure dans tout ça.
Tantôt, je vais parler avec David Goudreau, qui est écrivain. C'est un travailleur social aussi, un poète. Il se questionne beaucoup sur la langue française. Puis, tu sais, tantôt, on se disait, comment on fait pour interpeller les jeunes par rapport à la langue française, les y intéresser, non pas d'un point de vue grammatical, là, dans le sens, essayer d'aller chercher une certaine fierté d'être francophone, d'être unique en Amérique du Nord, de leur donner le goût, de l'aimer, cette langue-là, de la parler, d'aimer aussi des contenus francophones, de la musique en français. J'ai l'impression qu'on est un peu en train de perdre le contrôle, puis je sais pas comment aller les rechercher, ces jeunes-là. C'est sûr qu'en leur faisant consommer peut-être des objets culturels qui sont le fun, ça passe un peu par là, mais comment on fait? Parce que moi, j'ai pas l'impression que les gens... T'as quel âge, Alex?
Moi, j'ai 25 ans.
Ben, c'est ça, que les gens de 25 ans, puis même les gens de ma génération, sont si inquiets que ça, en fait, de la pérennité du français. Puis on devrait l'être.
Oui, on devrait l'être, certainement, mais c'est sûr, on est tellement exposés à des produits culturels d'ailleurs, mais là il y a une tendance à vouloir renverser ça.
C'est comme un lent brainwash.
Lentement, mais sûrement, mais il faut pouvoir être fier de la langue française. C'est important, c'est unique, puis c'est pas assez souvent mis de l'avant à quel point c'est unique. Puis je sais que pour plusieurs là, ça va paraître stupide là, d'aller l'inscrire dans la loi constitutionnelle de 1867. Ouais. Et ça sert à quoi? Pourquoi on va reconnaître ça?
Ben, c'est symbolique.
Je comprends, mais c'est symbolique. Il y a quelque chose d'éminemment important dans ce symbole-là. Oui. Et surtout, ce que j'ai hâte de voir, qu'est-ce qui pourrait ramener une flamme?
Ouais.
C'est fou ce que je vais dire, mais c'est peut-être un conflit qui va pouvoir ramener ça.
Ben, la pandémie, moi, je pense que ça aura aidé à refaire découvrir un certain nationalisme.
Ouais.
Pour vrai, là, je trouve pas que la CAQ, c'est un gouvernement parfait, puis je trouve, tu sais, on peut leur reprocher bien des affaires, mais moi, à bien des moments, pendant cette pandémie-là, j'étais fière puis d'être québécoise, puis j'étais fière de voir comment on se revirait de bord, puis toute l'ingéniosité dont on a fait preuve pour se sortir de cette affaire-là, puis avoir des solutions. Puis ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie de même, pour vrai.
Puis surtout, il a fallu qu'on se débrouille par nous-mêmes aussi.
Exact.
Hein? Puis on avait l'exemple du reste du monde, puis là, c'était vraiment, là, les frontières sont fermées, on est notre côté, puis le système de santé, c'est un système de santé québécois, c'est une prérogative provinciale. C'était pas au fédéral que ça s'organisait. On avait tout le loisir même de voir à quel point, sur certains dossiers, le fédéral a eu une grossière incompétence sur certains dossiers qui en ont mieux géré d'autres. On a pu voir la part des choses puis voir vraiment qu'est-ce que le Québec, on a fait, nous, pour saisir notre, dans le fond, notre destinée, ce qu'on avait à faire, là, je t'utilise des grands termes, mais faire nous-mêmes sur ce dossier-là, parce qu'on était livrés à nous-mêmes. Puis, on a été fiers, mais on a vécu une psychose aussi. Hein. Des fois, c'était, là, on a plus de cas que le Royaume-Uni au complet, au prorata de la population,
oui,
ça va pas.
J'ai pas dit que c'était parfait.
Ah, puis des fois, on adore notre système de vaccination, on a vécu toutes les étapes.
C'est ça. Bon, ben, je vais revenir tantôt avec David Goudreau sur notre fierté de parler français, comment on pourrait aussi réintéresser les jeunes à ce combat-là, qui est pas fini, en fait, puis qui est plus important que jamais de mener, à mon sens, puisque tu parlais d'évolution de la pensée. Moi, la mienne a pas mal évolué depuis 2-3 ans par rapport à la pérennité du français. Alexandre Morinville-Ouellette, merci.
Merci.